Donc, sur cette table ronde, vous avez compris, nous avons quatre intervenants, dont Paul Bern. Voilà, déjà catalogué. Paul qui a notamment publié deux volumes chez Mnemos, ce qui s'appelle « La pucelle de Diable Vert ». C'est le nom du diptyque et pas le nom des deux tomes, je précise. Juste à ses côtés, nous avons Sylvie Philippa de Foix. Qui travaille sur les trampolines de l'imaginaire à Cocyclix. Donc il va pouvoir nous expliquer un peu ce qu'est Cocyclix pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. À mes côtés, Maud Kitsune.
Ça.
Voilà. qui est un fan club. qui travaille sur la communauté littéraire Histoire de Roman, qui est un forum d'écriture, va nous expliquer
un site.
Et un site internet qui va nous expliquer un petit peu là aussi comment ça marche. Et puis. Un accroche Thomas John, qui lui a fait la Cité Noire et qui est passé par Cocyclix aussi depuis 2006, j'ai lu, depuis fort longtemps. Donc, voilà. Deux livres de fantasy, on va pouvoir aussi s'interroger si il y a plus de fantasy, il y a plus de demandes en fantasy, ou s'il y a aussi beaucoup de science-fiction, on va pouvoir en discuter ensemble. Peut-être d'abord on va parler... des deux sites internet, enfin du moins des deux structures. Peut-être la première chose pour Sylvie, si vous représentez Cocyclix, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que Cocyclix?
Voilà, donc Cocyclix, c'est un collectif d'auteurs et de grands lecteurs, fans d'imaginaire, de littérature de l'imaginaire, qui la plupart des gens écrivent et ont envie de s'améliorer. Et en fait, on est parti du constat que 99% des textes qui sont envoyés aux éditeurs ne sont pas assez bons, sont refusés, en général très rapidement, après quelques pages de lecture. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'améliorer ces textes. Et donc, on travaille en faisant de la bêta lecture.
Qu'est-ce que la bêta lecture? Est-ce que tu peux définir ce que c'est?
Oui, en très résumé, la bêta lecture, c'est dégager les forces et les faiblesses d'un texte. Donc, de dire ce qui fonctionne et de dire ce qui ne fonctionne pas au niveau du fond et de la forme.
D'accord. C'est-à-dire que vous êtes... Alors, après, sur l'organisation, vous êtes plusieurs à lire et vous pouvez dire, bah, là, par exemple, cette scène-là, elle est un peu trop longue, ou ton héros est un peu trop souvent dans des bars et ça lui vient l'histoire, ou des choses comme ça.
Ça dépend un petit peu, en fait, si on essaie de suivre ce que veut faire l'auteur, donc à quel public destiner son histoire, quel thème il va aborder. Et effectivement, si le roman est efficace, s'il fait bien passer l'information, si effectivement la caractérisation est bonne, en tout cas celle que lui souhaite donner à ses personnages. Et on travaille donc sur des romans, sur des extraits de romans, sur des synopsis, sur des nouvelles. Ça marche très bien. Et donc, tu demandais au niveau fantasy, science-fiction, donc c'est les fantasy, fantastique, science-fiction, les trois...
Alors concrètement, juste peut-être une précision, vous travaillez sur des extraits de romans. Ça veut dire qu'on peut venir vous voir en disant bah voilà, j'ai un bout de roman, là, ça pédale dans la choucroute, j'aimerais avoir votre avis. Concrètement, comment ça se passe? Comment on fait pour vous présenter des projets?
On vient sur. Donc on a un forum, et en fait, à partir du moment où on est inscrit, on peut poster un extrait de roman. Il y a une limite de signes. Et c'est vraiment quand on a un problème sur une scène ou qu'on veut savoir un petit peu ce que les gens pensent de notre style. Et donc là, tout le monde a accès à ça. Après, il y a plein d'étapes sur le forum, mais effectivement, c'est vraiment très très précis. Et là, tout le monde peut commenter. L'idée, c'est de l'entraide. Donc, à partir du moment où on poste un extrait pour se faire détalier, on rend l'appareil. Sinon, il y a du donnant-donnant.
Oui, il faut absolument s'investir pour pouvoir
oui. être... Mais évidemment, mais les extraits de romans, c'est vraiment tout petit. Donc, si on veut aller plus loin, travailler sur tout un roman, il y a des étapes... oui, effectivement, ça marche. À ce moment-là, on doit faire partie du collectif. C'est-à-dire qu'on doit être un bêta-lecteur, on doit prouver qu'on est capable d'aider quelqu'un sur la durée. Voilà.
Et alors, vous avez beaucoup de... Comment ça se passe? Vous avez beaucoup de propositions, vous avez beaucoup de bêta-lecteurs, vous lisez beaucoup de romans chaque année?
Oui. beaucoup. Non, en fait, pas assez. C'est assez étonnant, parce que c'est très dur. les auteurs sont très courageux. C'est très difficile d'être en cycle, puisqu'il y a deux grandes étapes. Il y a ce qu'on appelle l'alpha lecture et la bêta lecture. Donc d'abord une synthèse sur tout le roman, qui dégage vraiment les grandes lignes au niveau du fond et de la forme. Et puis il y a ce qui ressemble plus à du line editing, donc phrase à phrase, voilà, scène à scène. Mais c'est très long.
C'est long ?
C'est très long.
Combien de temps à peu près un cycle de relecture chez vous ?
Entre 6 mois et 1 an.
D'accord, 6 mois et 1 an à bosser avec l'auteur.
Parfois 12 ans. Ouais.
D'accord. Ouais. Okay. Plus ouais. Parfois
Non, je crois non. Non, je pense pas. Mais parfois ça amène effectivement à des réécritures. Et donc l'idée aussi, c'était pas tellement. Enfin, c'est plus que travailler sur les romans, c'est travailler sur les auteurs. Des auteurs qui peuvent faire face à la critique et qui surtout peuvent prendre tout ce qu'il y a de bon dans les critiques constructives et s'améliorer, effectivement. C'est plus important.
D'accord. Voilà. Je vais me retourner vers vous. Je vais poser un petit peu la même question. Comment ça marche chez vous? Quelles sont les étapes? Et surtout, pourquoi avoir mis en place ce site?
Donc en fait, on fonctionne un peu sur le même principe que Doxycyclic, sauf qu'on n'est pas spécialisé dans l'imaginaire. On fait vraiment tous les genres, jusqu'au théâtre et à la poésie. Donc c'est très, très peu tentatif, mais on en a quelques textes quand même. Alors nous, on fonctionne plus vraiment sur le partage, plus que vraiment sur le travail pour aller vers l'édition. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes auteurs, la plupart, on a aussi des jeunes de 54, mais c'est quand même des jeunes auteurs, qui ne viennent pas forcément à la base pour publier un jour, mais vraiment pour avoir un avis critique sur leur texte, savoir ce qu'ils valent. Et beaucoup, des fois, de jeunes auteurs ont énormément de négativité par rapport à eux-mêmes. Et donc déjà leur faire prendre conscience que voilà, ils ne sont pas tout seuls à écrire, qu'ils peuvent partager, que ce n'est pas forcément mauvais, et leur donner les outils vraiment pour avancer et s'améliorer, et pour certains peut-être publier un jour. Donc on a ce principe donc, de méta-lecture comme sur Doxycyclic, on a aussi un principe, on a des fiches en ligne d'aide, donc de vocabulaire, comment mettre en forme des textes, des éléments qui ne sont pas forcément évident quand on écrit, mais qui, quand on s'en rend compte, finalement, sont importants. Des fiches personnages pour des personnes qui auraient du mal à se structurer. Donc voilà, c'est beaucoup dans l'entraide, beaucoup dans le partage, et en fait, le travail vraiment poussé vers le manuscrit, à proprement parler, pour la publication, est vraiment secondaire.
Et alors, comment ça se passe chez vous? On a vu que chez Cosécrix, du coup, il fallait un petit peu s'investir pour pouvoir être bêta-lu, entre guillemets, être relu. Comment ça se passe chez vous? N'importe qui peut venir poster un message?
Alors, déjà, il faut s'inscrire. Donc, on a 2-3 formalités à suivre. Mais en fait, tous les auteurs. Enfin, il fonctionne, oui, sur du donnant-donnant également. Donc, tous les auteurs peuvent intervenir. Mais voilà, il faut que si on intervient sur un texte, c'est bien que l'auteur également puisse intervenir une fois de temps en temps sur le texte des autres. Voilà, après tout le monde peut intervenir sur le texte à partir du moment où ça lui parle. Donc voilà, c'est vraiment un rassemblement d'informations de tous les lecteurs, tous les auteurs qui sont sur le forum. Et ça fonctionne exactement de la même manière.
Donnez-nous toutes les deux un petit peu une idée du volume. Combien il y a de gens qui souhaitent, qui sont en relecture ou qui souhaitent être en relecture? C'est pas un point de vue, c'est vraiment pour avoir une idée de.
Nous, on est une petite structure encore, enfin à peu près, oui, 300 personnes.
D'ailleurs, en fait, comme il y a plusieurs niveaux, disons qu'il y a, je pense qu'il y a 800 personnes qui sont inscrites. On est 70 bêta-lecteurs. Il y a une dizaine, non, en fait, une vingtaine de romans, je pense, qui sont de travail. Et alors, les nouvelles, c'est énorme. Énorme, et les extraits romans, c'est énorme aussi. J'ai pas de chiffres là.
Juste une question, quand tu dis que vous êtes 70 bêta-lecteurs, donc il y a 70 personnes qui s'investissent et qui peuvent faire relire leurs textes, ils peuvent faire relire plusieurs textes à la fois?
Si ils arrivent à donner l'appareil.
Ouais, d'accord. Il faut qu'ils lisent le roman pour pouvoir.
Oui, voilà. Mais pas forcément en même temps, mais effectivement.
D'accord, il y a une notion. D'accord, ça fait quand même beaucoup, hein, 800 inscrits, 300 inscrits, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, énorme. Et c'est très intéressant de voir à quel point même quand ils souffrent beaucoup, les auteurs en redemandent. Ils sont convaincus de l'efficacité.
Maud parlait un petit peu de parfois donner confiance en soi presque à l'auteur. C'est un peu pareil chez vous de temps en temps. Il y a quelque chose comme ça où il faut décomplexer un peu l'auteur par rapport à son texte.
Effectivement, oui, quand il y a des doutes, soit on aborde dans ton sens, parce qu'effectivement le texte n'est pas bon, mais il y a des choses, il y a toujours des choses positives. Et donc effectivement être là pour lui et apporter dans la critique des choses vraiment constructives qui te donnent envie de se dépasser.
On va poser la question à nos deux auteurs qui sont passés par la bêta-lecture. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Pourquoi à un moment est-ce que vous vous êtes dit j'ai envie de rentrer dans ces structures qui relisent mes textes et qui ne sont pas des éditeurs? Paul.
Alors d'abord, avant la GPCX, j'étais déjà convaincu de l'utilité de la bêta-lecture, mais à l'époque c'était les copains qui bêta-lisaient. C'était pas forcément des bêta-lectures très constructives, parce que quand vous avez quelqu'un qui n'écrit pas, qui a juste un regard de lecteur lambda, c'est pas inintéressant, il peut avoir des avis, mais sur la technique, sur la construction des phrases, il n'aura pas un avis très, très pointu. Et sur Cosifix, l'intérêt c'est qu'on trouvait des auteurs, certes amateurs, mais des gens qui étaient confrontés aux mêmes problématiques. Et moi je suis absolument convaincu quand j'écris un texte, je sais pas ce qui va pas dedans, mais je sais déjà que je vais pouvoir changer des choses, que quelqu'un d'autre va pouvoir m'aider dessus. J'ai terminé, je me dis c'est quand même pas mal. Je vais laisser tomber une semaine, je vais attendre et je sais que je vais trouver des choses qui vont pas. Et ensuite, je vais montrer à d'autres personnes, je suis certain qu'ils vont pouvoir m'aider. Il faut rester humble, le texte peut toujours être amélioré, c'est pas un premier jet, c'est forcément améliorable.
Comment ça s'est passé pour toi, ces premières bêta-lectures? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que...
Alors d'abord, quand on se fait bêta-lire, on a envie de tuer son bêta-lecteur.
Oui, ça c'est bon.
D'accord.
Alors surtout pas répondre tout de suite à son bêta-lecteur. Faut laisser passer au moins 24 heures. On enregistre, on digère la bêta-lecture, on réfléchit, on passe une nuit dessus, souvent blanche. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses que le bêta-lecteur a pointées de façon fort juste. C'est-à-dire ça le problème. Ensuite, on revient vers lui humblement et on le remercie parce qu'il vraiment, il a fait un travail très long, très. C'est peut-être amusant, mais c'est quand même un gros travail. Donc, il faut le remercier et il faut l'écouter. Parfois, il faut aussi prendre la distance avec la bêta-lecture, puisque le bêta-lecteur donne son avis subjectif à lui. Il faut pouvoir se dire ça m'intéresse. Je pense qu'effectivement, il a raison, hein, parce que moi, je ressens que je peux faire quelque chose de mieux. Là, il m'a dit qu'il y avait un problème. Et puis parfois, on a dit, mais non, là, tu m'orientes vers un thème que tu ne m'intéresses pas. Moi, je garde ce que j'ai pensé. Ou alors, au contraire, tu pointes un truc, mais à mon avis, c'est pas ça le problème. Par contre, ça me fait penser que voilà, ce que tu me dis me fait penser à un autre problème. Donc, je vais le régler autrement que tu m'as dit, mais merci quand même d'avoir signalé qu'il y avait quelque chose. Et alors, bêta lire, ça s'apprend, mais recevoir une bêta lecture, ça s'apprend aussi.
Vous en discutez avec les auteurs que vous bêta-lisez?
On en discute, et d'ailleurs Cosifix c'est un forum de travail, il y a des fils qui sont uniquement faits pour le travail texte, et à côté de ça, il y a des fils pour décompresser, on raconte plein de conneries, et on raconte aussi nos trucs sur l'écriture, on dit là j'ai un problème, et il y a toujours des tas de gens qui vous répondent, qui vous donnent leur point de vue, et ça aide aussi, c'est pas uniquement la bêta-lecture, mais c'est la rencontre des auteurs, des trucs, des astuces, et aussi du soutien moral.
Comment ça s'est passé pour toi?
Ça s'est passé un petit peu de la même manière que Paul disait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, y a pas que le texte derrière, c'est que c'est aussi quelque chose sur le plan humain et mental, et que ça apporte à tous les niveaux dans l'écriture. Pour ce qui est du texte, c'est effectivement chaque bêta-lecteur peut avoir des ressentis différents. Ça permet de voir que le lectorat en face peut avoir aussi des ressentis différents sur le texte, que le lectorat en face peut recevoir certaines émotions qu'on a voulu faire passer plus ou moins bien. Ça permet de se remettre en question pour faire passer ce qu'on voulait faire passer en fait, dans le texte, que ce soit des émotions ou autre. Donc voilà, comment ça s'est passé sinon, j'ai travaillé sur la mare avec Cocyclic, donc je suis passé par tout le process jusqu'à l'Estampille. Donc il y a eu des relectures de fond sur la cohérence, sur toute l'histoire, sur l'intrigue, et puis des relectures donc, de forme également, pour pointer des petites scories ou autres, ou la répétition de verbe par exemple. Donc c'est un petit peu à tous les niveaux que ça se fait sur le travail sur le texte. Et puis j'ai eu aussi une bêta lecture en off avec Sylvie. Où on a pointé plus sur des éléments de potentiel émotionnel. C'est quelque chose qui est un peu, je pense, un cheval de bataille de Sylvie, qui est très très intéressant aussi, qui permet, quand on veut faire passer quelque chose dans une scène, de le faire au maximum, d'aller jusqu'au bout un petit peu de ses possibilités.
Donc en fait, la question c'est aussi qu'est-ce qui fait que le lecteur accroche, qu'est-ce qui fait que le lecteur comprend, entre en empathie, a envie d'en savoir plus. Et ça en fait il y a plein d'éléments qui font que ça marche. Il y a une bonne gestion d'information, une bonne gestion du rythme, de l'attention, de l'émotion, oui, effectivement, et de la caractérisation. Et ça, c'est passionnant en fait à décortiquer.
Quels sont un petit peu les défauts des débutants, entre guillemets, les grandes catégories d'erreurs que vous pouvez trouver sur les textes?
Alors, dans les grandes catégories d'erreurs, on a le manque de recherche. C'est ce qui a vraiment, c'est ce qui ressort le plus. Les répétitions. Après, c'est plus au niveau des formulations. Un auteur débutant va avoir des phrases assez simples finalement. Peut rechercher avec des vocabulaires assez pauvres. On va voir des manques de recherche, des manques d'informations, surtout en fantasy ou en fantastique. Surtout en fantasy. Donc les répétitions, comme je signalais, du fait justement du manque de vocabulaire. Des fois, on rencontre des auteurs qui ne lisent pas aussi. Donc c'est vrai que ça leur fait défaut finalement. Donc la première chose qu'on leur dit, c'est voilà, tu écris en fantasy, tu aimes la fantasy. Peut-être que lire de la fantasy te permettrait justement de voir finalement qu'est-ce que la fantasy. Tous les auteurs n'ont pas forcément scrupule justement de se dire est-ce que je connais ce que je veux exprimer finalement. Voilà, c'est vraiment le gros point que je retrouve le plus souvent.
C'est bien, un petit peu même question, quels sont les grands points sur lesquels vous travaillez le plus souvent, hein, chaque texte spécifique, mais quelles sont les grandes lignes un petit peu?
Moi, mon cheval de bataille, c'est la gestion de l'information, parce qu'un jeune auteur, en général, il n'en dit pas assez, parce qu'il veut maintenir le suspense. Et en fait, c'est une très mauvaise idée, parce que du coup, le lecteur s'emmerde. Pardon. Donc, le lecteur n'est pas du tout emballé, il accroche pas, il comprend pas ce qui se passe. Et l'auteur justifie tout le temps le fait qu'il faut pas donner trop d'informations, parce que sinon, on va pas tout dire quand même. Et en fait, si, il faut donner assez d'informations pour que le lecteur comprenne ce qui se passe et anticipe et se dise ah, « j'ai envie de savoir, je sais assez, mais pas tout, et j'ai envie de savoir ». Et pour faire comprendre ça, ça a l'air un peu simple quand on dit ça, mais c'est sur une histoire, un auteur a toujours une bonne raison pour ne pas donner assez d'informations. Vraiment.
Oui, c'est ça, c'est créer une attente en fait chez le lecteur qui revient, qui monte progressivement, on fait monter un petit peu le plaisir. Il monte, et puis quand l'élément final arrive, ça a beaucoup plus d'impact. Il y a eu cette attente en vente.
Et là, encore un truc terrible, je trouve, c'est la passivité du personnage principal. Donc, qui est un observateur, donc il faut évidemment décrire un monde. Ça, c'est aussi dans la fantasy, il faut expliquer des choses qu'on ne connaît pas, donc il faut mettre en place un décor. Et donc, en général, le personnage principal est très observateur. Et donc, c'est parfois beaucoup trop. Et du coup, il est très passif. Il a un point de vue très, très introverti. Il n'agit pas assez ou il ne réagit pas assez. Il ne vit pas assez de conflits. Et donc, il n'est ni actif ni réactif. Et du coup, ça provoque aussi le fait que les personnages autour du personnage principal plaisent beaucoup plus parce que eux
ils sont pas obligés d'être des observateurs, au contraire ils agissent. Et donc ils sont plus touchants, ils ont plus de personnalité. Et de nouveau, l'auteur a toujours une bonne raison pour que son personnage soit passif. Par contre, quand il lit le texte de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui va pointer. Alors que dans son propre texte, il a une raison de faire la même chose. Voilà.
Oui, parce que bon, on parle de bêta-lecteur et d'auteur, mais en fait, c'est les mêmes personnes. Et bêta-lire quelqu'un, ça apprend beaucoup sur son propre texte. Effectivement, Sylvie disait, on regarde les textes des autres, mais ton personnage est trop passif, et tout de suite, on se demande, mais le mien, est-ce que finalement, je ne suis pas dans le même travers? Mais ça, c'est pour beaucoup de choses. Tiens, mais il met quand même beaucoup trop de virgules, là. Je trouve que ça arrache son texte, et puis ensuite, on y repense, et puis on relit notre texte. Moi aussi, j'en ai plein, mais je fasse attention.
Qu'est-ce que tu as appris concrètement? Qu'est-ce qui a changé dans ton texte entre le premier que tu as soumis, entre le début et la fin? C'était quoi le gros déclic?
Alors, il y a plusieurs textes. Hein. Mais chaque bêta-lecteur a sa spécialité. Alors, Sylvie, effectivement, elle veut dire toujours il n'y a pas assez de conflit, il s'est pas assez tendu. Et
ça, ça y est.
Pas forcément. Il faut qu'il y ait du conflit, de la tension. Il ne faut pas qu'on s'endorme.
Non. Je vais juste citer un exemple. Vous avez deux personnages qui parlent à une table et ils sont d'accord l'un avec l'autre. Et la scène se passe et bon, on ne ressent pas de conflit, les personnages ne sont pas en conflit. Et c'est pas super intéressant. Donc oui, je suis d'accord avec toi, moi aussi je suis d'accord avec toi. Par contre, à partir du moment où le lecteur sait qu'il y a une bombe sous la table, les personnages sont toujours dans le même dialogue. Je suis d'accord avec toi, tu es d'accord avec moi, mon chat s'est fait écraser ce matin, oh mon Dieu, pauvre. Mais on sait, le lecteur ressent le conflit. Donc c'est pas forcément le personnage ou les personnages qui ressentent le conflit, c'est le lecteur. Et c'est ça le plus important. C'est que l'on ne doit pas forcément être conflictuel, mais que le lecteur doit ressentir le conflit. Donc quand il sait qu'il y a une bombe sous la table, il sait quelque chose de plus que les personnages. Et il va avoir envie de savoir si cette bombe va exploser ou pas. Et s'il ne le sait pas, et que cette bombe explose, et que parce que l'auteur a voulu faire un effet de surprise, boum, l'effet de surprise, en fait, le temps est très court, tandis que ce qu'on appelle l'ironie dramatique permet l'accroche. Et donc, on ne peut pas ressentir de l'émotion de manière rétroactive. On ne peut pas revivre la scène en se disant, ben voilà, on s'est embêté pendant tout un dialogue où il ne s'est rien passé, et puis boum. Tandis que quand on sait qu'effectivement il y a une bombe, on se dit mais pourquoi ils sont là? Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà.
Paul, je t'ai coupé.
Pardon.
Non mais c'est un truc de bêta-lecteur. Oui, je disais, chaque bêta-lecteur a ses propres spécialités. Et à chaque fois que je relis mon texte, enfin, à chaque fois que j'écris un texte, et que j'ai des voix de mes bêta-lecteurs passés qui sont derrière mon épaule, qui me disent « Ah là, tes phrases sont trop longues. » Et là, je mets trop d'adverbes et résiste à l'envie de faire un flashback. Et donc j'ai l'impression que les bêta-lecteurs passés, les bêta-lecteurs c'est pour le texte, mais c'est aussi pour l'auteur, pour l'avenir. On apprend énormément dans ton bêta-lu.
Pareil, même question pour toi. Qu'est-ce qui a changé entre ton texte initial et le texte final?
De manière vraiment concrète, il y a eu quelques chapitres d'ajoutés, quelques chapitres d'enlevés. Et en un peu plus de recul, je pense les émotions qui passent plus facilement. Et puis un texte un peu plus propre. Mais c'est un point important aussi pour les éditeurs. En résumé. Ce qui est intéressant aussi, et je complète aussi ce que disait Sylvie, c'est qu'on apprend aussi en même temps progressivement plus ou moins des techniques de dramaturgie, qui sont des techniques qui utilisent de manière intellectuelle, mais qui vont avoir derrière une incidence vraiment sur ce que ressent le lecteur. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Et petit à petit, voilà, on se crée plus ou moins une culture de ces techniques en échangeant toujours sur ces sujets, comme le show don't tell, on pourra expliquer peut-être tout à l'heure, ou Sylvie, si tu veux nous parler du Lavandier à ce moment-là. Ou...
Qu'est-ce que le Lavandier?
Yves Lavandier est un scénariste français qui a beaucoup travaillé aux États-Unis et qui a écrit un livre qui s'appelle La dramaturgie, et il se base sur 1400 œuvres de dramaturgie. Donc, c'est pas de la littérature, on peut faire des ponts. La dramaturgie, donc il parle de cinéma, il parle de théâtre, il parle de BD. Pour lui, la BD, c'est de la dramaturgie. Et il va expliquer pourquoi un texte touche un public plus grand, et quels sont les mécanismes au niveau de la narration et au niveau du scénario qui vont faire que c'est un bon film, c'est un bon film. Il parle du conflit, il parle de la gestion d'information, donc de l'ironie dramatique, du suspense, du mystère. Il parle de la caractérisation, et il est passionnant et il faut le lire. Et il n'y a pas assez de bouquins comme ça qui expliquent ce genre de choses. Il y en a beaucoup en anglais, donc ceux qui lisent l'anglais, il faut vraiment il faut se nourrir de ça. Je pense que Yves Lavandier, je le trouve formidable. Moi, ça m'aide pour aider. Enfin, j'écris pas personnellement, donc ça m'aide beaucoup pour dire ce que je ressens de manière plus formelle à un auteur. Et donc, il faut lire Yves Lavandier.
Alors, justement, je voulais qu'on parle un petit peu de tout ça, parce que là, on a parlé de passion, on a parlé de se relire entre soi, et il est évident que. En littérature, il y a des techniques, comme tu parlais, il y a effectivement des ouvrages. Alors, quelle est la part des deux dans vos deux organisations? Est-ce que vous avez des espèces de grilles de lecture qui sont en place à partir, par exemple, d'ouvrages techniques? Ou est-ce qu'on est simplement, entre guillemets, sur du ressenti? Maude.
Alors, nous, on essaye vraiment de prendre tous les paramètres possibles, pas se baser que sur le ressenti, parce que tout le monde, face au même texte, ne va pas ressentir la même chose, ne va pas voir la même chose, ne va pas s'attacher au même personnage. Donc, on a un article déjà, qui est sur le forum, qui est en premier en annonce générale pour tout, qui explique voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la critique d'un texte. Et donc les différents paramètres à voir et qui sont importants. Donc déjà celui qui va poser son avis sur quelqu'un va se dire, va y réfléchir. Et même celui qui va recevoir pour plus tard, il va se dire, tiens, c'est vrai, quand moi je donne mon avis sur un texte, je parle de ça. Mais alors, est-ce que par rapport à mon propre texte, est-ce que la même chose est valable? Donc le fait d'avoir justement, donc déjà c'est un article assez succinct, tout n'est pas développé pour vraiment laisser une marge de manœuvre et de la liberté. Mais déjà, celui qui, vu que c'est à double tranchant, donc on lit et on élu, c'est-à-dire que face à la lecture, on va agir de telle manière, face à, on va recevoir les avis, on agit d'autre manière, et on se rend compte que finalement, des fois, on est beaucoup plus critique que celui qui nous lit. Et c'est vrai qu'en fait, on réfléchit beaucoup. Finalement, de donner son avis à quelqu'un d'autre, nous fait vraiment beaucoup plus réfléchir finalement que de recevoir l'avis de quelqu'un parfois. Donc on essaie de ne pas vraiment se baser sur le ressenti pour aller vraiment plus loin et explorer vraiment tout le texte.
Pareil chez Cosidix. Paul, tu veux répondre? Il y a une grille de lecture, il y a un petit manuel du métalecteur, comment ça se passe?
Non, il y a quelques règles à respecter. Il faut rester toujours cordial. Et il ne faut pas reformuler. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une phrase en disant moi je vais t'en donner une qui est meilleure parce que je suis meilleur que toi, et tu n'as plus de phrase. Ça, c'est interdit. Oui, à chaque fois que quelqu'un fait ça, on lui dit attention, c'est à l'auteur de refaire sa formulation s'il souhaite changer sa phrase. À partir de là, tous les coups sont perdus. C'est-à-dire que le subjectif est aussi important. C'est aussi l'émotion que ressent le lecteur. Elle va aussi l'aider dans sa bêta lecture pour dire moi j'ai pas accroché à ton texte. Mais par contre, j'ai bien aimé telle ou telle scène. Et alors, le fait d'avoir plusieurs bêta-lecteurs, parce qu'il n'en faut pas un seul, permet de trouver des points communs, de dégager des choses. Et l'auteur va pouvoir se dire, ces points-là, il y a vraiment un problème, parce que plusieurs lecteurs ont eu un problème dessus. C'est pas tout subjectif, mais à partir du moment où il y a plusieurs lecteurs qui ont le même problème, ça devient quand même beaucoup moins subjectif. Mais oui, il n'y a pas vraiment de règle. Je sais pas si tu penses à d'autres règles qu'on aurait à ce moment-là.
Toi, tu parlais beaucoup du style, effectivement. Moi, j'aime pas travailler sur le style. Oui, effectivement, il n'y a pas de. Alors, il n'y a pas de. On s'interdit des sujets. Ça, c'est cosmique, hein. C'est pas les bêta off. Mais on s'interdit les reformulations. Et alors, par exemple, si c'est. Tu devrais terminer comme ça, en fait. Ça ne se termine pas bien. Donc, c'est pas assez efficace. On se termine comme ça. Non, il faut juste dire. Ça marche pas. La façon dont tu veux faire passer ça, dont tu veux terminer, ça fonctionne pas. Donc voilà, il y a quelque chose qui pose problème. Mais tous les bêta-lecteurs sont différents et tous les auteurs sont différents et tout le monde n'est pas capable d'écrire et tout le monde n'est pas capable non plus d'apporter quelque chose d'extrêmement constructif, si ce n'est effectivement je me suis ennuyée, je n'ai pas ressenti d'émotion ou il y a des fautes d'orthographe. Voilà. Mais il y a des bêta-lecteurs qui vont beaucoup plus loin parce qu'aussi ils ont peut-être le même bagage culturel que l'auteur ou bien qu'ils se nourrissent comme de l'avant-dier, mais il y a plein de bouquins qui vont beaucoup plus loin en fait dans le soutien qu'ils peuvent apporter aux auteurs. Et Cosiclick, c'est une merveilleuse école pour ça. Au niveau, donc, il y a la différence entre ceux qui font partie du collectif et donc qui sont plus acquéris, qui ont travaillé et qui le font régulièrement et très souvent, et puis des gens qui ne restent pas forcément, qui sont pas là très longtemps, donc on voit bien qu'il y a des différences.
Quelles sont justement les limites de la bêta-lecture? Est-ce qu'il y a un moment où la bêta-lecture ça marche, puis il y a un point où on n'arrive plus à se mettre d'accord sur le texte? Quelles sont un petit peu les limites de l'exercice?
Enfin, déjà, ça dépend des bêta-lecteurs et des auteurs. C'est-à-dire que certains auteurs vont avoir reçu, par exemple, beaucoup d'avis positifs sur plein d'éléments de leur famille, de leurs amis. Puis un jour, ils vont débarquer, ils vont dire « Voilà, moi j'ai un texte, tout le monde me dit qu'il est très bien. Tout le monde va le lire et le faire. » Oui, effectivement, il y a des choses bien, mais il y en a des moins bien. Et certains auteurs vont être bloqués dessus. Ils vont dire non, c'est pas vrai, on a dit que c'était bien ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on va dire ok, si tu penses que c'est bien, écoute, garde-le, réfléchis dessus. Mais c'est vrai qu'on a des fois des conflits pour des petits détails qui. Parce que pendant longtemps, tout le monde leur a dit que c'était bien. Et aussi, au niveau des bêta-lecteurs, il y a ceux qui peuvent. Ne pas dépasser, ne pas imposer finalement son avis. C'est-à-dire que, alors nous on n'impose pas mais on suggère. Alors la différence peut être des fois assez tortueuse. Ça veut dire on va pas faire voilà, ça c'est pas bien, il faut faire ça. On va dire alors voilà, moi j'ai lu ça, ce que j'en ai pensé, je ressens ça. Peut-être que par rapport à voilà, ce que j'en ai ressenti, ça me paraît local. Si jamais il se passait ça, qu'est-ce qui se passerait? Alors donc vous allez donc d'ouvrir des pistes justement pour nous. Dire ce qu'on en pense et faire réfléchir finalement l'auteur sur ce qu'il a mis et qui nous dérange. On ne fait pas de réécriture à en parler. Des fois, on va avoir un texte qui vraiment va bloquer, on va lui dire alors voilà, là il se passe ça, j'ai un problème avec cette phrase-là, si tu la mettais comme ça, ou comme ça, ou comme ça, on fait une liste de propositions. Est-ce que ça passerait pas mieux par rapport à ce que tu veux dire parce que j'ai l'impression que tu veux exprimer ça. Et c'est vrai que des fois, en expliquant ce que nous ressent et comment on le verrait, l'auteur se dit ah, effectivement, j'avais pas vu ça de cette manière-là, je vais y réfléchir. Et finalement, après, réécrire en fonction de ce qu'il a fait réfléchir, des propositions que nous, on a par rapport à ce qu'on ressentait. Et finalement, des fois, on a d'excellentes surprises. Et on fait ah ouais, mais c'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Des fois, on est dégoûté parce que c'est encore mieux que même ce qu'on pourrait faire.
Je vais donner deux exemples. Par rapport à mon texte, en fait, un exemple où il y a eu un changement positif et un exemple où, par exemple, l'élément n'a pas été retenu. Ou en tout cas, voilà, c'était plus en termes de discussion. Premier exemple, c'était une scène avec l'archétype d'une voleuse qui est une égoutière qui va dans le fangeux, voilà, dans la cité noire, et qui revient et qui dit voilà, j'ai trouvé une broche, je sais pas qui elle appartient. J'ai vu les gardes, enfin, elle a vécu un moment de tension, mais elle le raconte. Et donc, Cindy m'a dit, mais ça, je veux le vivre, ça, je veux pas... voilà, le lire, ça a beaucoup moins d'impact. Et là, j'étais complètement d'accord, et j'imaginais cette scène, et je me suis dit, bah oui, ça permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans l'action, voilà, et ça avait beaucoup plus d'impact, et je changeais pas d'information par rapport à mon texte. Et ça s'y prêtait beaucoup mieux. C'est un premier exemple. Autre exemple, donc de l'autre côté, où c'était une discussion sur un personnage, donc Perceron en l'occurrence, et donc où le ressenti c'était mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire passer? Est-ce que il n'y a pas un côté aussi sérieux dans le personnage? Et est-ce que il ne faut pas qu'il soit fort ou moins pas crédible ou... Et à ce moment-là, moi c'était pas voilà, ce que je pensais. Et c'était pas peut-être pas le moment pour ce personnage, dans ce tome, pour que ça arrive. Donc à partir de là, ben voilà, c'est, pour cet homme-là en tout cas, voilà, ça ne va pas plus loin. Donc, il y a des réflexions de part et d'autre, et puis des choses qui sont retenues, et puis des choses qui ne le sont pas, ou sont sous une autre forme. Ou...
Les limites de l'exercice.
Mais on n'est pas des éditeurs, donc en fait, peut-être qu'on a moins de limites, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ligne éditoriale. On ne dirige pas un auteur, enfin, on l'accompagne, donc on sait ce que lui veut, et on n'a pas de... pas de ligne éditoriale. On n'est pas des professionnels, ça c'est notre limite. Et puis cette question de confiance aussi, je pense que il y a des gens qu'on n'écouterait pas forcément, même si les avis sont judicieux, et d'autres qui vont dire des choses qui vont même transformer le texte, qui vont aller beaucoup plus loin, mais la confiance elle est là. Et donc ça va fonctionner. Enfin, chaque duo finalement, bêta lecteur-auteur, fonctionne différemment. On sait très bien qu'on aura un avis différent de chaque personne. Donc à un moment donné, il faut faire un choix dans le travail qu'on fait.
Alors justement, une question. Vous êtes le chaînon entre l'auteur et l'éditeur, entre guillemets, du moins le premier chaînon de lecteur. Et pourquoi pas l'édition, hein? Qu'est-ce qui vous empêcherait après tout l'un comme l'autre de soit publier des livres, soit publier des fanzines avec des livres, soit peut-être publier du numérique, on en parle beaucoup. C'est pas tentant un petit peu, honnêtement, dites-le-moi, là, il n'y a personne.
Ça n'a pas qu'il revient tous les 6 mois, ce post-cycliste, il y a un petit nouveau qui arrive et qui dit, et si on publiait des textes? Et systématiquement, bon, non. Parce qu'il y a déjà des éditeurs, par contre des gens qui font de la bêta lecture comme nous, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas comme on fait. Et on ne veut surtout pas prendre la place des éditeurs. Nous, on s'intéresse à l'auteur, on essaie de l'améliorer, de faire que son texte soit le meilleur possible. Mais on n'est pas un éditeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura, s'il y a eu un éditeur, on l'espère, l'éditeur va lui demander des corrections éditoriales. Ce n'est pas du tout le même travail. Les corrections éditoriales vont le faire rentrer dans une ligne éditoriale, dans une collection. C'est plus de la bêta lecture. En plus, on n'est pas des professionnels, on n'a pas ce regard. Si on était éditeur, on nous taxerait de juger parti. Voilà. Vous avez des copains, vous les bêtalisez, puis ensuite vous les éditez, c'est parce que vous êtes des copains. Non, on a choisi. Alors, cette question revient effectivement régulièrement sur le tapis. On a aussi des éditeurs qui nous disent mais vous pourriez être mon comité de lecture. Vous feriez ça. J'ai plein de manuscrits, j'ai envoyé. Et c'est tentant évidemment, mais il faut répondre non. Parce que si on répond oui, ça veut dire on va être tenté de sélectionner les copains qu'on a fait peine. C'est pas ça le but. Le but c'est d'aider tout le monde, les auteurs qui veulent arriver sur le côté, y compris les auteurs qui sont pas de chez nous. On n'a pas vocation à empêcher les autres auteurs de
l'attraitement. Tout à fait, voilà. Enfin, on est d'abord sur une volonté, je pense vraiment, et un état d'esprit d'entraide. Et puis, pas sur un état d'esprit d'argent ou autre. Et de toute façon, il y a plein d'éditeurs sur la place qui font ça très très bien. Donc, voilà, pas du tout ce demande.
Il y a trop d'éditeurs. Il y a trop de petits éditeurs. Et on voit bien que c'est très difficile. On se rend compte à quel point c'est difficile. Et en 6 ans d'existence, on en a vu des structures qui se sont effondrées. C'est toujours très douloureux. Donc on est devenu un peu plus réaliste. Et donc jamais on ne sera. On n'a pas envie de ça, parce qu'on a cette liberté-là, effectivement, finalement, d'accompagner qui on veut. Et donc on ne sera jamais un comité de lecture pour un éditeur, et on sera jamais, on ne deviendra jamais.
Par contre,
jamais maison d'édition.
Oui. Même question, est-ce que la tentation de passer de la bêta lecture à l'édition?
Alors, à l'heure actuelle même. Enfin, j'ai pas les connaissances, j'ai pas la profession pour ça. Alors je sais pas si jamais un jour j'avais une formation, pourquoi pas, mais à l'heure actuelle, c'est pas ce que je recherche. Moi ce que je veux c'est vraiment. Enfin c'est la même chose d'ailleurs que je dis aux auteurs qui viennent, je fais publier, enfin c'est mal mais c'est pas une solution. Voilà, j'en dis publier, voilà, c'est très, c'est un beau, c'est beau. mais il faut pas spécialement mériter, mais il faut travailler, aboutir quelque chose. Et là, à ce moment-là, la publication, l'édition devient vraiment ce qu'il y a de plus beau dans l'écriture, la finalité où il faut aller. Donc nous, on voit beaucoup, enfin, surtout chez les jeunes en tout cas, où il y a cette idée d'édition à outrance. On voit des jeunes auteurs qui vont se faire publier chez quelqu'un, et puis une édition qui est toute jeune, vient juste de se créer, se casse la figure, et puis 2 mois après, on voit le livre qui est republié chez quelqu'un d'autre, qui vient juste de s'ouvrir également. Et au final, quand on voit les livres finis, on se dit, mais où est le travail derrière? Et c'est vraiment des erreurs qu'on voit beaucoup, mais en même temps, en ce moment, le marché de l'édition a l'air d'exploser chez certains. On voit beaucoup de petites structures qui se créent, qui publient énormément, et on se dit, mais comment ils font? Où ils trouvent les fonds? C'est pas possible de publier autant alors qu'on vient juste d'exister. Et c'est vrai que c'est un problème dont on essaye, nous, de mettre en garde. Des erreurs qu'on leur dit, mais évitez-les. Si vous voulez publier, voilà, c'est quand vous le mériterez, ça vous tombera dessus, et vous verrez que ce sera la plus belle chose qui arrive.
Peut-être qu'on comprenne un tout mot sur ces histoires de bêta lecture pour nos deux auteurs qui sont là. Quelle a été la différence de travail entre la bêta lecture et une fois que vous êtes arrivé, donc Nemos par exemple pour toi et Algarve pour toi, qu'est-ce qu'a fait l'éditeur sur ce texte-là?
Alors l'éditeur, déjà il a des considérations commerciales, donc sans aspect péjoratif. Hein. Par exemple, il nous dit, moi il me faut une limite de signes. Je ne peux pas publier plus de 800 000 signes, c'est trop gros pour moi, donc pour moi, il va falloir le couper en deux parce qu'il fait plus de 800 000 signes. Alors ça, un bêta lecteur ne te le dira jamais, puisque ça dépend complètement de l'éditeur, de ce genre de choses, ça appartient complètement à l'éditeur. Il peut également te dire, telle scène, je ne le vois pas dans ma collection, c'est trop triste, c'est trop glauque, ou au contraire, c'est trop mignon, et voilà. Donc ça, certes, c'est pas mal dans ton roman, mais c'est pas indispensable. Regarde, tu peux pas le changer. Ça, c'est un regard qu'on n'aura pas non plus en tant que bêta, parce qu'on n'a pas de limite. Enfin, ce qu'on fait, c'est aider l'auteur à faire au mieux pour ce qu'il fait. Maintenant, il y a quand même des choses qui ressemblent. Hein. Quand l'éditeur te dit « rebat ta phrase, là, les deux répétitions », c'est ce qu'on fait déjà en bêta lecture. Donc il y a un aspect commun, c'est sûr, mais c'est comme pas la même chose.
Donc oui, il y a eu deux cycles, enfin deux lectures, l'une de Thomas Riquet, directeur de collection Refus d'ailleurs, sur la partie fantasy, et l'autre de Lucie Chenu. Et donc on a passé à travers un petit cycle. Ça a été surtout quand même du point de vue de voilà, une énième étape sur la forme, plus que vraiment sur le fond. Je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de boulot avant, mais bon, ça peut aussi être différent avec un autre bouquin. Donc, assez belle.
Et est-ce que vous avez d'autres textes en bêta lecture? Maintenant, ça y est, maintenant vous êtes auteur, donc vous avez publié des livres. Est-ce que vous continuez dans ce processus de bêta lecture?
Alors en fait, quand on croit à la bêta lecture, c'est que déjà on est convaincu que l'inspiration elle n'est pas divine, que le travail de l'auteur il peut toujours être mis en question, un texte il peut toujours être amélioré, et même quand on est publié, même quand on a une certaine expérience, moi, je suis convaincu que c'est plus c'est une sorte d'artisanat, quoi. Donc il faut polir son texte, le corriger, le recorriger, le re-recorriger, le faire regarder par d'autres personnes. Et c'est aussi peut-être aussi ça, en fait, d'avoir de l'expérience, c'est admettre qu'on n'est pas parfait et qu'on peut améliorer son texte. Moi, je pense que si dans 10 ans, je suis encore publié, et même si j'ai 10 ouvrages derrière moi, je continuerai à chercher des bêta lecteurs.
Oui, c'est à peu près la même chose. Et puis ça crée des réflexes, ça crée des habitudes. Voilà, on se pose des questions différentes, on dit des choses différemment quand on écrit. Et de toute façon, on peut toujours changer les choses. Toujours revenir sur un texte, je pense 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tard. Puis ensuite, ça dépend du lectorat. On peut plus travailler sur le style ou pas, ou plus travailler sur tel autre élément. Mais au final, bon, je suis d'accord avec toi. Il faut admettre que voilà, ça ne peut pas être parfait.
Je pense que quand on a le nez dans le guidon, il y a des choses qu'on ne voit pas. Effectivement, plus on publie, plus on a d'expérience et plus et mieux on voit les choses. Mais il y a un regard externe paraît vraiment essentiel. Et quand vous voyez les grands auteurs qui publient à des centaines de milliers, des millions d'exemplaires aux États-Unis, ils ont toujours, que ce soit leur agent ou des gens qui les accompagnent, qui les remercient. Donc voilà, je pense que c'est indispensable. Il faut être énervé aussi pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour savoir qu'on a des ressources en soi qu'on n'imaginait pas parce qu'on est agacé par quelqu'un qui ne sait pas assez bien. Il faut que ce soit encore meilleur.
Mais est-ce que c'est pas un peu parfois comme le golf, il faut 3 ans pour apprendre, 3 ans pour désapprendre et après on joue bien.
Oui,
est-ce que parfois il faut savoir oublier la métalecture quoi.
C'est pas faux. Je ne connaissais pas le truc du golf, mais c'est vraiment pas mal. Oui. De toute façon, il faut écrire. Voilà, il ne faut pas s'arrêter. C'est ça qu'on veut faire.
Alors, petite question sur les éditeurs. Comment ça se passe en termes de relations? Vous avez des relations directement avec les maisons d'édition?
Alors, moi, je suis aussi chroniqueuse littéraire, donc j'ai beaucoup de partenaires éditeurs. Mais par rapport donc, à la dimension avec les auteurs, oui, on a quelques partenaires qui nous ont dit, voilà, qui ont reconnu notre travail, qui voient comment on agit. Et on a déjà trois de nos auteurs qui ont déjà été publiés, donc dans des maisons d'édition et comme des éditeurs. Et voilà, avec vraiment un vrai travail derrière, qui sont maintenant très contents. Voilà, donc c'est bien de. C'est, quand on voit à quoi on aboutit, nous, on se dit, vrai, c'est. On connaît notre travail, on voit ce que l'on peut donner à des auteurs et on espère les voir aller très loin. C'est peut-être, en tant que bêta-lecteur et après chroniqueur littéraire, puisque je les vois après le livre fini, avec donc la vision éditoriale derrière, qui des fois change vraiment de ce qu'on a connu en tant que bêta-lecture. Et on se dit, oui, c'est un pas en avant. Effectivement, donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'un texte et un auteur va perpétuellement évoluer, on le sait bien, on le voit également. Moi, en tant que chroniqueuse, je le vois dans les livres, avec une vision différente que quand je bêta-lis, forcément. Voilà, je vais voir d'autres problèmes qu'en tant que bêta-lecteur, je n'aurais pas spécialement souligné, puisque la ligne électorale derrière n'y était pas. Et au contraire, au fur et à mesure des livres, on voit cette émergence, cette évolution, ce truc en plus qui fait que.
Même question, quelles sont vos relations avec les éditeurs? Comment ça se passe?
Très bien. c'est important pour nous de gagner leur confiance, donc toujours en sachant qui on est par rapport à eux et qui ils sont par rapport à nous. Donc des professionnels versus des amateurs passionnés. Il y a une différence entre avant, c'est-à-dire que donc on recherche des partenariats. Maintenant, on en refuse parce que la structure est trop jeune, parce que l'éditeur n'a pas encore fait ses preuves, parce qu'on voit plein de petits éditeurs qui s'effondrent et c'est toujours très très douloureux pour tout le monde. Et donc, on n'a pas envie de voir les auteurs souffrir comme ça. Enfin, si, on aime bien les faire souffrir, mais pas de cette manière. Donc les relations sont bonnes, les relations sont de confiance, c'est pas aussi parce qu'on a des partenariats. Il y a des éditeurs avec qui on n'a pas des partenariats, mais avec qui on dialogue beaucoup. Et donc on apprend énormément en fait. C'est passionnant.
Est-ce que vous avez des conseils entre guillemets? Est-ce que vous donnez des conseils à vos auteurs justement sur ce passage à l'éditeur, sur, ça peut être aussi bien sur les contrats que sur la mise en forme, des choses comme ça. Est-ce que ça va plus loin que la lecture sur le texte?
Oui, d'abord parce que sur Cosmic, on a quelques auteurs publiés, hein, comme Thomas et moi. Donc on a un pied dans l'édition, il y a des gens qui sont passés de l'autre côté de la barrière, donc qui ont une certaine expérience, même si elle est encore un peu limitée, un peu jeune, on peut donner des conseils. Par exemple, on peut dire sélectionne bien ton éditeur, regarde bien si c'est pas du compte d'auteur. Avant de signer, attends de voir si un autre éditeur peut-être plus important pourrait te donner une réponse positive. Voilà. Et puis on a aussi l'annuaire des éditeurs, de science-fiction, fantastique et fantasy. dans lequel il y a un certain nombre de conseils, comment présenter son texte, à qui l'envoyer, comment sélectionner son éditeur, parce qu'on a sélectionné une centaine d'éditeurs de fantasy, sans que ce soit incapacité, qui acceptent les manuscrits. Il y en a qui n'acceptent pas les manuscrits. Il y en a qui en acceptent, mais dans certains genres très particuliers, c'est pas la peine de leur envoyer votre roman si ça ne rentre pas dans ces critères. Et on a également sur le forum des gens qui posent des questions, et donc forcément, les auteurs se sentent très seuls, et quand ils sont sur un forum, ils ont des réponses enfin à leurs questions. Mais des questions toutes bêtes, hein, du genre « Mais mon esprit, j'arrive pas à le relier, il est trop gros. » Parce que à 25 caractères par 60 lignes, ça fait un pavé énorme. Alors, on leur explique, on les rassure, c'est pas très grave, tu peux faire resserrer un petit peu tant que c'est lisible. Et les gens sont angoissés parfois par des choses qui sont sans intérêt. Mais c'est pas grave, faut les expliquer. Ma lettre de présentation, comment je la fais, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que ma mère a lu mon manuscrit? Non. Non, ne dis pas ça. Non, en maisant le moins possible, soit sobre, fais un petit résumé si on te demande un résumé. Renseigne-toi sur ce que demande l'éditeur. Parfois c'est tout bête, mais sur le site internet de l'éditeur, vous avez marqué, envoyez-moi un résumé, pas plus de 400 signes ou pas moins de 400 signes. Donc déjà, c'est la première démarche à faire. Regarde ce que fait l'éditeur, regarde ce qu'il a publié avant, regarde ce qu'il demande. Et oui, ça arrive beaucoup.
Juste pour nous donner un ordre d'idée, sur tous les romans et nouvelles qui sont terminés, ont terminé le cycle, combien sont publiés?
Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'une grande majorité des romans ont trouvé un éditeur. Je sais, peut-être 80% de ce que c'est. Alors, ce n'est pas toujours des grands éditeurs, ça peut être des petits. Mais oui, la plupart des textes trouvent un éditeur. Alors, pour ce qui est des nouvelles, c'est beaucoup plus difficile parce que. On ne sait pas toujours quel est le devenir des nouvelles. On sait que au moins 100 nouvelles qui ont été. Plus de 120 des nouvelles qui ont été travaillées sur. Sur la mare, enfin sur Cosifix, puisqu'on s'appelle la mare en Méditerranée. Bref, sur plus de 120 nouvelles ont été acceptées dans des appels à texte, soit de fanzines, soit d'éditeurs, quoi, des anthologies, etc. Donc ça marche très très bien. Pour les nouvelles, il faut savoir que c'est rare quand il y a un appel à texte de SFFF où il n'y a pas au moins une grenouille, voire deux, trois ou quatre grenouilles qui sont sélectionnées. Alors l'éditeur ne le sait pas, hein, il ne reçoit qu'un texte, mais nous on se réjouit après. Et après on compte les points.
Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que quelqu'un a une question?
Bien. C'était chouette.
Non, bah, c'est qu'on a tout dit. Monsieur, venez prendre le...
Non, parce qu'on enregistre, alors il faut que vous preniez le micro, tout ça, parce qu'après on a des problèmes de volume sonore. Déjà, je me suis levé, il ne voit plus la caméra, c'est l'horreur.
C'est juste pour savoir si Lavandier était traduit en français et à quel éditeur il était.
Il est français en fait.
C'est encore mieux.
Oui, il a un site, il suffit de taper sur Google Yves Lavandier, il a un site. Donc c'est assez cher, hein, c'est 40 euros. Mais c'est très gros, mais bon, voilà, c'est extraordinaire.
Sylvie me dit depuis des années, Yves Lavandier, tu vas apprendre plein de choses. Je me demande, t'es gentil Sylvie, mais je sais écrire. Et un jour j'ai lu Lavandier. Maintenant, je dis merci à Sylvie. Non, c'est vrai, il faut vraiment lire ça quand on prétend écrire des romans.
J'ai une question pour
Maud.
Est-ce que vous avez des conseils sur la lecture de différents genres, sur la mare des spécialités en littérature imaginaire, histoire de romans, tout genre, poésie, théâtre, etc. Mais chaque genre a des codes propres. Vous avez des lecteurs qui sont spécialisés par genre.
Oui, on a des... il y en a qui sont justement spécialisés. Par exemple, pour la partie théâtre, la plupart des gens sont soit des personnes qui font du théâtre, donc qui apportent justement cette vision. Alors ça, c'est, on ne peut pas le dire dans une pièce de théâtre, parce que pour ça. Donc oui, même pour la poésie, la plupart, voilà, c'est, ils vont écrire que ça, que des poèmes. Ils auront, quand on leur dira un roman, ben non, moi je fais que de la poésie. Donc oui, on est quand même, voilà, ceux qui apportent vraiment leur avis sont spécialisés dans ce qui donne leur avis. Après, il y a ceux qui lisent vraiment de tout, qui pas beaucoup, mais qui connaissent à peu près, qui peuvent donner leur avis sur à peu près la plupart des choses. Donc, ça dépend, voilà.
Oui. Y a-t-il une autre question? Non, moi j'en ai une dernière. C'est sur le... En fait, vous êtes tous bénévoles, vous êtes tous amateurs passionnés, j'aime bien le terme. Mais comment est-ce que vous imaginez la pérennisation de votre structure? Comment est-ce que vous imaginez la suite de la structure dans le temps?
Alors, nous, on réfléchit pour en faire une association
une vraie association. Et puis après, on verra. On espère que ça durera jusqu'au bout. On espère vraiment un jour que, voilà, peut-être pas qu'on soit indispensable, mais que les éditeurs ou les auteurs se disent voilà, faut que je passe par de la bêta-lecture pour en mettre en question, pas forcément pour prouver quelque chose, ou même si. Mais au moins se dire voilà, ça va me permettre de me remettre en question, d'évoluer avec mon texte, avec des gens.
Et chez vous,
mais nous, en fait, tant qu'il y a des auteurs qui jouent au jeu, ça vit. Donc, en fait, on offre un cadre et puis les gens sont là. Donc, on met en place un système qui fait que les gens sont obligés de respecter les consignes. Et tant qu'ils respectent les consignes, c'est-à-dire je demande de la bêta-lecture et j'en offre, voilà, ça continuera à exister. Et on va jamais insérer de l'argent. C'est un programme de travail. On a créé une association, par contre, qui s'appelle Tremplin Imaginaire, qui fait d'autres choses, mais que cyclique, tant qu'il y a des auteurs qui jouent le jeu, ça existera.
Oui, d'abord, c'est une cyclique qui existe depuis 5 ans, mais les gens, 6 ans, voilà, les films. Mais les gens qui sont. Bref, un certain temps. Mais les gens de début sont partis pour la plupart. Ils ont été remplacés. Les gens viennent, ils donnent un an, deux ans, trois ans à la permanence ou à un poste clé, et puis ils vont faire autre chose parce que ça prend quand même beaucoup de temps, ils sont remplacés. Parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une bonne volonté extraordinaire, un enthousiasme des auteurs. Il y a énormément de gens qui me disent « mais j'ai un projet pour Cyclix, et si on faisait une section où on parlerait de nos romans, de leur avancée, on ferait un défi, on dirait en un an, vous écrivez votre roman. » Mais en fait, pourquoi pas, vas-y, lance-toi. Ça tourne tout seul. Et il y a énormément de gens qui sont prêts à donner de leur temps, qui s'amusent beaucoup, qui s'investissent. Bénévolement, certes, ça marche très bien. En fait, nous, les administrateurs, on délègue de plus en plus à toutes sortes de gens qui sont d'accord pour nous aider.
Bon, bah merci beaucoup en tout cas, c'est la fin de cette table ronde. Restez ici parce qu'on va parler fabriquer son livre numérique tout de suite avec Jean-Claude Bignac, Sylvie Lenné et Laurent Caissy. Merci à vous et bon dimanche.